En ce dimanche, nous célébrons le dimanche des rameaux et de la Passion qui nous ouvre à cette semaine sainte, la semaine des semaines, comme on l'appelle, c'est-à-dire la plus grande des semaines de la vie liturgique, de l'histoire du salut, finalement de la vie chrétienne. Alors, j'ai choisi de méditer avec vous le psaume 21 ou le psaume 22 en fonction de la numérotation qui nous est proposée. Je vais essayer de le psalmodier parce que c'est une très grande fête qui s'ouvre à partir de cette semaine où nous allons vivre le mystère pascal. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà le psaume qui nous est proposé durant cette liturgie de ce dimanche des rameaux et de la Passion. C'est un dimanche qui a un air de mélancolie, parce qu'il commence par cette entrée triomphale messianique de Jésus à Jérusalem, où le peuple chante Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, mais où en même temps nous allons vivre le récit de la Passion, où le peuple va crier à mort, à mort, à mort, crucifie-le, crucifie-le. Il y a donc, selon l'expression de Balthazar, la gloire et la croix. Et le psaume que nous avons choisi essaye justement de rassembler tout cela. C'est un psaume qui est devenu célèbre grâce à ce refrain d'ailleurs que j'ai chanté, qui est le début de ce psaume, son verset 2a. C'est un psaume qui est devenu célèbre parce qu'il est mis dans la bouche de Jésus, sans doute Jésus l'a récité lorsqu'il était sur la croix avant de mourir, dans sa souffrance, dans sa détresse qui était réelle. Ces paroles nous sont rapportées. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on a essayé d'écrire. Il y a de nombreux écrits sur ce psaume, sur ce cri de Jésus, un cri presque de désespoir, un cri qui monte un peu, qui déchire le ciel, qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et selon les évangélistes, ceux qui étaient là vont dire, ils vont se moquer justement de Jésus, et te dire, ah, il appelle Élie. Entendons voir si Élie viendra de délivrer. Et curieusement, c'est la même chose qui va se passer dans le psaume. Celui qui crie, celui qui prie Ce psaume, celui qui est concerné justement, nous montre justement qu'il est entouré des gens qui se moquent de lui, des gens qui lui disent, mais il se réclame du Seigneur, il se réclame de Dieu, voyons si Dieu va l'exaucer. Dans la situation actuelle où nous sommes, avec le nombre croissant de morts, de malades. Oui, beaucoup d'hommes crient. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et collectivement, nous pouvons aussi crier, Dieu, Seigneur Dieu, pourquoi nous abandonnes-tu? Et c'est ce réalisme des psaumes qui m'intéresse. On peut crier vers Dieu avec réalisme lorsqu'on se sent abandonné. Lorsqu'on ne ressent plus sa présence, crier vers le Seigneur. Et le psaume est tellement réel qu'il exprime ses sentiments envers Dieu, sentiments d'abandon. Mais nous allons voir que le psaume a une certaine progression, une progression que nous allons essayer de déchiffrer ensemble. Parce que ce n'est pas un psaume d'abandon, justement, c'est un psaume de confiance. Mais la confiance de quelqu'un qui a vécu une situation douloureuse, une situation triste. Cette personne a vécu l'absence de Dieu. Et si nous lisons le psaume entier, on va voir qu'il va dire au Seigneur, pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir? C'est-à-dire, il est en danger, il crie vers le Seigneur et il sent que le Seigneur ne le secourt pas. Sans écouter ma plainte, dit-il, mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas. La nuit, je ne trouve pas de repos. Donc c'est un orant, c'est quelqu'un qui prie jour et nuit sans réponse du Seigneur. C'est la première expérience qu'il va faire, l'expérience d'abandon. C'est une expérience que nous pouvons aussi faire, mais ce n'est pas n'importe qui. Cet homme qui parle dans le psaume, c'est un homme qui connaît Dieu, qui sait que Dieu a déjà agi dans l'histoire, dans la vie de son peuple et dans sa vie personnelle. Et justement, vous allez voir à partir du verset 4, justement, il va montrer une sorte d'étonnement, de dire à Dieu, mais je ne te comprends pas. Il va dire, mais pourtant, tu es le saint. Donc, ce n'est pas parce qu'il fait l'abandon de Dieu qu'il va dire que Dieu, tu es mauvais. Dieu ne te comporte pas bien. Il veut comprendre, dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qui se passe? Il cherche à comprendre. Il n'incrimine pas Dieu. Il ne dit pas que Dieu est mauvais, il dit pourtant tu es le saint d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Là, il se rappelle un peu en fait du temple où le peuple loue Dieu tout le temps, où Dieu est encore présent. Et il rappelle donc l'histoire de Dieu avec son peuple. Il dit, c'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi et n'étaient pas déçus. Voilà cet homme qui marque sa confiance en Dieu. Il dit au Seigneur, tu as toujours agi ainsi, mais regarde-nous maintenant, regarde-moi, je suis prisonnier, je suis torturé. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui est torturé. Et il va le dire, mais en disant au Seigneur, mais c'est toi, pour son histoire personnelle, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as sorti du ventre de ma mère, qui m'as mis en sécurité sur sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, Dieu, mon Dieu. On pourrait penser ici à ces enfants qui sont baptisés dès leur naissance, confiés à Dieu dès leur jeune âge. En fait, il a dû naître dans un contexte tellement religieux où on se confie à Dieu, on savait que c'est Dieu qui était son secours. Et il dit, mais regarde-moi maintenant, j'ai grandi comme un être religieux, mais qu'est-ce que je suis? Un ver, je ne suis même plus un homme. Pourquoi? Il dit, parce qu'aujourd'hui, tout le peuple me méprise, je suis humilié. Ceux qui me voit, se moque de moi. Et c'est là que ça rejoint justement l'expérience de Jésus sur la croix qu'a écrit. On se moque de lui. Il dit, ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, que le Seigneur le délivre puisqu'il l'aime. En fait, si on se rapporte à la croyance d'Israël, on se rend compte que pour Israël, celui qui est dans l'état de souffrance, etc., est abandonné justement par Dieu à cause de ses fautes. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui serait peut-être hypocrite. On le voit dans le livre de Job, où ses amis vont lui dire, mais le Seigneur ne peut pas se contraindre justement sans doute, tu as péché. Et donc on se moque de lui, il se vante que le Seigneur est son ami. Mais si le Seigneur est son ami, qu'il le sauve donc. Voilà en fait cet homme qui, lui, du fond de son cœur, sait qu'il est avec le Seigneur, mais on se moque de lui. Et sans doute, il est torturé. Quand on dit quand même des mots dans lesquels il raconte sa détresse, il est vraiment presque à la mort. Il dit, mes forces vont comme l'eau qui s'écoule, mes os se disloquent, mon cœur fond comme la cire. Ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la cendre de la mort. C'est vraiment une situation de détresse extrême qu'il exprime. Et je crois que c'est un homme qui suffoque quand même, mais qui est sans doute torturé, puisqu'il dit, il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mais cet homme, dans cette souffrance, où il évoque l'absence de Dieu, mais en même temps, il se souvient que Dieu s'est toujours bien comporté. Il ne comprend pas, il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un homme qui garde confiance et qui continue à prier. Malgré tout cela, il continue à prier. Il va dire, mais toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Tu es ma force. Viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, contre le pouvoir des chiens. Malgré qu'il sent que Dieu n'est pas en colère, il continue à prier, il continue à garder confiance, il continue à dire, Seigneur, ne sois pas loin, c'est toi ma force. Oh, quel courage! Quel message de persévérance dans la détresse, quel message d'espérance pour que cet homme nous donne de confiance totale en Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Et curieusement, sans doute cet homme a été sauvé. Sans doute une situation est arrivée, il a été délivré, puisqu'il dit, tu m'as répondu. Nous sommes là au verset 22. Il dit, tu m'as répondu. Il dit, à cause de cela, j'annoncerai ton nom parmi mes frères. Puisqu'il a été sauvé, fait dans son projet d'aller rendre grâce à Dieu au temple, d'aller continuer la détresse, tout ce qui est arrivé, sa souffrance, tout ce qu'il a vécu, ne l'a pas éloigné de Dieu. Au contraire, il dit, oui. J'irai, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai en pleine assemblée. Quelquefois, la détresse plutôt nous met loin de Dieu. Quelquefois, la détresse nous fait nous interroger sur Dieu. Beaucoup aujourd'hui de nos concitoyens ne croient plus en Dieu à cause des situations difficiles qu'ils ont vécues dans leur vie. La perte d'un être proche, un accident, un enfant toujours malade, des injustices subies. Et quelquefois, ils se disent, mais si Dieu avait été là, si Dieu existait, cela ne serait pas arrivé. Ils ne comprennent pas ce monde. Mais là, on nous donne une autre façon de lire cette histoire. De comprendre que nous pouvons traverser ces situations, mais le Seigneur répond toujours. Et plutôt, au sortir de ça, c'est un homme confiant. Comment allons-nous sortir de cette crise? Est-ce que ce sera vraiment une occasion, un renouveau intérieur partout? Est-ce qu'on va voir des chants de louange monter de partout pour le Seigneur qui nous a délivrés? Ce psaume nous dit, j'annoncerai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai en pleine assemblée. Et il invite donc à craindre le Seigneur. C'est-à-dire, finalement, il se dit, ceci nous amène quand même à nous interroger sur notre manière de faire. Il dit, vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous descendants de Jacob, honorez-le, tremblez devant lui. Vous tous descendants d'Israël. Oui, c'est nous, il s'adresse à nous. Il s'adresse à nous pour nous dire, ah, mais peut-être fort, quand nous revoyons notre manière de faire, il faut que nous craignions vraiment le Seigneur. Et cet expérience nous fait dire sa conviction finalement. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas un psaume d'abandon, mais un psaume de confiance. Disait le verset 27, dit, il ne méprise pas par langue de Dieu. Il ne repousse pas le malheureux dans sa misère. Il ne cache pas son visage, mais il écoute quand il crie vers lui. Quand on lit ça avec le premier verset, on peut se dire, mais voilà, quelle contradiction. Non, il a vécu vraiment la détresse, mais après tout cela, il s'est rendu compte que le Seigneur l'a exaucé et que le Seigneur exauce toujours. Il écoute le malheureux dans sa misère. Il ne cache pas son visage. Le Seigneur continue à nous écouter. Alors il dit, quelle belle nouvelle, on pourrait dire parasidiaque. Les malheureux mangeront et ils seront rassasiés. Ceux qui cherchent le Seigneur le célébreront. Oui, voilà la bonne nouvelle. Invitation à célébrer le Seigneur. Il dit, tout le peuple de la terre se souviendra de l'Éternel et se tourneront vers lui. Oui, vous voyez toutes ces prières que les chrétiens partout dans le monde essaient d'élever, les initiatives du pape, les initiatives des évêques, des prêtres, des chrétiens, des fidèles laïcs, partout dans le monde qui invitent à la prière. Oui, au sortir de cette crise, nous sortirons de cette crise, mais que ce soit une occasion pour nous tourner vers le Seigneur. Oui, il dit, ils se tourneront vers le Seigneur. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. Car c'est à lui qu'appartient le règne. Et justement, au verset 30, il va plus loin. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront. Est-ce que le pouvoir d'homme qui a cru connaître toute la science, tout le pouvoir, est-ce qu'à la sortie de ces crises, ils seront se tourner vers le Seigneur pour dire, peut-être ce n'est pas seulement notre science, ce n'est pas seulement notre savoir, ce n'est pas seulement notre pouvoir, que ce soit économique, militaire, qui nous a sauvés. Parce que finalement, cette crise nous montre que ce pouvoir économique, financier, militaire ne peut pas combattre ce virus. Peut-être qu'il faudrait que nos prières font que Dieu nous inspire des actions nécessaires. Devant le Seigneur, le psaume dit, ils s'inclineront tous. Voilà. Et le psaume, et je termine par là justement, nous invite à être témoins de cette bonne nouvelle. Nous qui avons traversé la crise, nous qui sommes passés quelquefois par la maladie, nous qui avons sans doute perdu des amis, des collègues, des membres de la famille, se tourner et annoncer à la génération nouvelle, à cette nouvelle page de l'histoire qui se tourne, que le Seigneur est bon, que le Seigneur est roi, que justement la génération future retienne cela. Voilà l'œuvre du Seigneur. Il n'abandonne pas les siens quand il crie vers lui. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bonne fête des rameaux et que cette semaine sainte, nous la vivons en confiance dans le Seigneur. Nous la vivons pleine de confiance car cette semaine sainte va nous faire vivre le mystère pascal. Et ce mystère pascal va nous ouvrir une nouvelle aube dans la vie et peut-être l'annonce que le Seigneur a vaincu la maladie, a vaincu la mort. À vous tous. Bonne semaine sainte.